On est dans cette série Alerte et on poursuit avec ce thème qui brûle dans mon cœur et à bas les murs. Qui connaît l'expression se heurter à un mur, hein? Et à des moments, on se heurte à des murs. Et parfois, on va le voir, il y a des murs que l'ennemi met devant nous, mais il y a des moments, c'est nous-mêmes qui nous mettons un mur. Et je sais pas, on est peut-être en pleine course, on avance, on se prend un mur, bam! Et on connaît cette expression, je me suis pris un mur. Et on essaie de peut-être de chercher un coupable. On essaie de comprendre ce qui se passe. On s'est pris un mur. Et dernièrement, et je ne sais plus quand, mais en tout cas, ça m'est arrivé, l'expérience spirituelle et profonde, glorieuse de la baie vitrée. Ça arrivait à quelqu'un avec assurance. Vous dites, c'est ouvert. Et c'est fermé. Et là, tu te prends un mur transparent. Et ça m'est donné, quand je priais pour nous, et j'avais cette image de tellement de chrétiens qui se prennent une baie vitrée. On croit que la porte est ouverte et on y va et on court et on prie et on dit « ça y est, c'est le moment M, c'est le jour J, c'est ma persépée » et j'y vais « bah !» On est stoppé et ça fait mal. Et peut-être tu es dans ce lieu et tu es dans ce cas. Tu croyais que la porte était ouverte. Tu croyais que le chemin était ouvert. Et tu croyais que c'était un jour nouveau. Et tu croyais que Dieu avait changé les temps et les circonstances. Mais alors que tu avançais, tu t'es heurté à cette baie vitrée. Et j'aimerais aujourd'hui réellement mettre le focus sur cette baie vitrée qui est en fait la culpabilité ou un esprit de rejet. Il y a des moments, encore une fois, ce n'est pas l'essentiel de mon message. Il y a des moments, oui, c'est l'ennemi qui va bloquer des situations. Il y a des moments, c'est le péché. On va le lire. Mais il y a d'autres fois, et bien souvent, et vous qui êtes là aujourd'hui, je m'adressais particulièrement à vous et à nous, en fait. C'est une baie vitrée qu'on a nous-mêmes mis en courroie. Dieu a littéralement ouvert quelque chose. Mais par la culpabilité, on se prend littéralement un mur et on n'arrive pas à aller plus loin. Oui, le péché est l'un de ces murs. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, nous dit Ésaïe 59. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. On pourrait tellement dire des choses sur ce verset. Les plus puristes pourront mettre l'accent sur le fait, oui, le péché nous cache sa face. Mais moi, j'aime parce que ce texte commence en disant, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. En fait, la clé de ce passage, c'est ça. Et j'aimerais réellement souligner quelque chose cet après-midi. Que peu importe où tu en es, avec un style de vie de repentance, j'aimerais te déclarer que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et littéralement, j'aimerais te dire, ton péché n'a pas coupé la main de Dieu. Ton péché n'a pas bloqué la main de Dieu. La main de Dieu est plus grand que ton péché. La main de Dieu est plus grand que ta situation. La main de Dieu est plus grand que ce que tu as fait. Que la culpabilité ne te fasse pas croire que la main de Dieu est trop courte. Que le cœur de Dieu est trop resserré. Aujourd'hui, si tu crois, tu vas réellement voir que la main de Dieu vient littéralement te chercher de là où tu es. Il est temps de ne plus se contenter d'une vie chrétienne, on a prié pour ça tout à l'heure, moyenne, misérable. Parce que la culpabilité va nous maintenir réellement loin. La culpabilité va nous empêcher de saisir cette baie vitrée et même de voir ce que Dieu nous tend. Dieu te tend la restauration. Dieu te tend l'amour. Dieu te tend tellement de choses, tellement de bénédictions. Mais la culpabilité te fait dire « non, ce n'est pas moi ». Et l'esprit de rejet, on parle souvent de l'esprit de rejet envers peut-être les hommes, les uns, les autres, mais il y a un esprit de rejet que l'on vit aussi envers Dieu. Non, non, Dieu, non, non, Dieu, tu ne peux pas faire ça pour moi. Je ne mérite pas. Et on se sent tellement rejeté. On ne veut même pas saisir ce que Dieu nous tend. Et derrière la culpabilité, un mensonge a déraciné. Et pareil pour l'esprit de rejet. Et cela peut se faire que par la vérité de sa parole. Et tout à l'heure, on l'a chanté. Ta vérité règnera. Et quand on chantait ta vérité règnera, Comment est-ce que la vérité peut régner si ce n'est par toi et moi qui laissons la vérité prendre place dans notre vie? En fait, la vérité de Dieu règne quand tu te débarrasses de toute forme, de toutes sortes de culpabilité et que tu vis réellement ce que dit la parole de Dieu. La vérité règne quand tu ne laisses plus le mensonge régner dans ta vie. Parfois on dit, ouais, ta vérité régnera, mais on accepte les mensonges. Quand tu acceptes les mensonges dans ta vie, tu es en train de dire que le mensonge va régner. La meilleure manière de laisser la vérité de Dieu régner, c'est réellement de laisser cette vérité prendre place dans notre cœur et de manifester la vérité de sa parole. La vérité, hein, vous vous souvenez de dimanche dernier, la vérité, moi je n'ai pas l'accent, je n'ai pas l'onction de ce territoire, mais la vérité, c'est que c'est toi qui fais régner la vérité. La vérité passe par toi. Et on va lire ensemble, et j'étudie, j'aime beaucoup l'épître ou la lettre aux Éphésiens. Lorsqu'on regarde les érudits, les commentateurs, et l'épître aux Éphésiens, certains l'appellent la banque du croyant. Donc ça intéresse déjà pas mal de personnes quand j'ai dit ça. Le carnet de chèques. Je sens qu'il y a des chrétiens qui vont aller lire Éphésiens ce soir. La chambre du trésor de la Bible. Ah! Si tu veux réellement découvrir ton héritage en Christ et comment te posséder, va lire Éphésiens. Va lire Éphésiens. 6 chapitres, c'est très facile. 5 fois le mot richesse, 12 fois le mot grâce, 8 fois le mot gloire, 15 fois l'expression clé en Christ. En Christ, on a, en Christ, en Christ. Et on a besoin de cette vérité. Et en fait, lorsqu'on l'incarne, on va voir que le croyant a accès à tout ce que Christ possède. C'est vrai. Rien que ça, si on le réalise, le croyant, le chrétien, a accès à tout ce que Christ possède. On bataille tellement pour des choses qu'on veut avoir et tellement de choses que Dieu déjà nous a données par Christ. Mais la culpabilité, l'esprit de rejet, comme je l'ai dit, entre autres, nous empêche de saisir. On va lire rapidement. Donc, Éphésiens 2, une portion. Éphésiens 2, à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, moi je crois, moi j'aime bien ces petites phrases. Mais maintenant, je pourrais même écrire avec un livre, avec mais maintenant. Est-ce que quelqu'un le saisit? Je dis, je ne sais pas combien tu es rentré. Tu es rentré avec la culpabilité. Tu es rentré avec le découragement profond. Tu es rentré en se disant, ben, je ne vaux rien. Je dis, mais maintenant, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Le premier qui a bâti un mur important, c'est Jésus. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons... Oh, merci Ludie. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, ah, il y a un donc dans ta vie cet après-midi, c'est pas fini. Ainsi donc, il y avait maintenant, mais ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On va le voir tout à l'heure, mais dès la maison, dans l'introduction, j'aime les introductions parce qu'il faut que je plante le décor. Jésus lui-même est la pierre angulaire. De toi à moi, si Jésus est la pierre angulaire dans ma vie, est-ce que le diable peut me détruire complètement? Le problème, c'est que nous, on croit que c'est nous la pierre angulaire. Et quand les problèmes viennent, ben, on est vacillant. Mais si réellement on a pris conscience que Jésus est la pierre angulaire, la pierre principale, la principale de l'angle, rien ne peut nous effondrer. Tu es solide en Christ. Tu es en Christ. Alors ne te regarde pas comme étant sans Christ. C'est simple. Mais tellement de chrétiens vivent comme s'il n'y avait pas Christ. Tu es en Christ. Ne te regarde pas comme étant sans Christ. Ne vis pas comme étant sans Christ. Abat ce mur de la culpabilité. Abat ce mur du rejet. Tu es en Christ. Et on va voir trois vérités. Et on l'a lu. Et la première vérité, c'est nous avons été rapprochés. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Notre traduction, Darby. Même maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture. J'expliquerai tout à l'heure rapidement. Mais comprenez bien ceci. Paul écrit à qui ? N'écrit pas à des extraterrestres. Est-ce que Paul écrit à des gens qui ne pêchent plus ? Est-ce que Paul écrit à des gens tellement parfaits, dit, vous êtes une race vraiment particulière. Paul écrit, je peux vous garantir que les Éphésiens étaient des gens de la même nature que vous et moi. Je peux vous le garantir. Mais il écrit une des vérités extraordinaires, que si on le saisissait, autrefois on était loin. Jadis on était éloigné. Mais en Christ, lorsque, même quand tu as péché et que tu reviens, jadis tu étais loin, autrefois tu étais loin, sans Christ, mais en Christ, tu es proche. En Christ, tu as été rapproché. En Christ, tu n'es plus dehors. En Christ, tu es à l'intérieur. On va voir tout à l'heure, on est à l'intérieur de la maison de Dieu. Il y a des choses que l'on cherche alors que nous les avons déjà. En fait, nous ne grandissons pas parce que nous sommes en quête de choses que nous avons. Parce que si nous réalisons que nous les avons, nous pouvons grandir dans ce que nous avons déjà. En fait, tu développes ce que tu as. Tu ne peux qu'investir pour les financiers que ce que tu as. Tu ne peux espérer une croissance que ce que tu as. Mais ce que tu n'as pas conscience que tu as, tu le cherches constamment. Et ici, il y en a qui cherchent constamment plus de Dieu, plus de présence. Mais est-ce qu'on a déjà réalisé que nous avons déjà été rapprochés de Jésus-Christ, par Jésus-Christ? Et je veux réaliser ce matin. Et parfois, regarde, oh, j'aimerais une plus grande intimité. Mais déjà, est-ce que tu as réalisé que par Christ, en Christ, que tu as été rapproché? Tu n'es pas loin. Tu es proche de Dieu. Dieu est proche de toi. Le Père est proche de toi. C'est le Père qui a fait ce premier pas, qui est venu vers toi et grandit dans ce que tu as déjà. Rapproché versus éloigné, séparé, étranger. Ça, c'est un fondement majeur. Que nous puissions réaliser ça cet après-midi. C'est un fondement majeur. Le mur, la Bible nous dit dans ce passage, a été renversé. Le mur a été renversé. À l'époque, il y avait, en fait, c'est l'image du temple de Jérusalem où il se trouvait un mur pour séparer les juifs et les non-juifs. Et Paul prend cette image du temple où il y avait ce mur mitoyen. Pour ceux, peut-être, il y a des propriétaires ici, on a des murs mitoyens. Mais Paul nous dit que spirituellement, dans notre relation même avec Dieu, ce mur-là qui existait, c'est vrai dans le naturel, et ce n'est pas mon propos, entre juifs et non-juifs, mais c'est vrai aussi spirituellement. Ce mur-là a été renversé. Il n'y a plus de mur. Et quand tu te repens, il n'y a plus de mur. Oui, le péché peut t'éloigner pour un temps, pour un moment. Mais cet après-midi, je suis là pour te rappeler qu'en Christ, tu peux constamment revenir à lui. Le mur de séparation a été renversé. Ton péché, confessé et abandonné, ne peut pas et ne doit plus t'éloigner de Dieu. Ça, c'est un mensonge diabolique. Jésus a payé un prix fort. Et que ce soir, que tu ne puisses pas te regarder comme étant loin de Dieu.
Que ce soit que tu ne puisses pas te regarder comme étant misérable. Ce soit que tu ne puisses pas regarder l'autre comme étant plus digne. Je dis ceci, Jésus a payé pour toi afin que tu sois proche du Père. Jésus a payé pour toi afin que ton péché soit lavé, effacé. Et le temps grec utilisé pour dire que le mur a été renversé, ça veut dire action terminée. C'est fini. Tu n'es plus tenu de vivre loin de Dieu. Tu n'es plus tenu de croire que tu dois faire tellement de choses pour espérer entrer dans sa présence. Enfin, j'ai prié, j'ai jeûné de jour et de jour, Dieu peut-être va m'accepter dans ses parvis. Et tellement de chrétiens, là je parle de péché, et parfois même pas de péché. Parfois, les dons et les appels, on se les compare. On regarde quelqu'un, dit lui il a tellement plus de dons et de grâces pour être plus proche de Dieu. Lui c'est le chouchou de Dieu. L'autre, ah, moi j'ai pas ça. Et on s'exclut. Sentiment, esprit de rejet. Non. Et ce matin, quand je cet après-midi, quand je préparais, c'est pas dans les notes, Suzanne, et ce texte m'est revenu. Je le lis rapidement. C'est un texte prophétique pour plusieurs. Écoutez bien. Et quand on jouait, enfin, quand on jouait, ça, je m'emballe, je dis ça, je jouais, moi. Quand je jouais. Je sentais littéralement des gens qui s'approchaient. Et vers la fin, tac, c'est comme s'il y avait une rencontre avec le Père. Luc 15. Il appela, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui ne connaissent pas ce texte, c'est la parabole du fils prodigue. Il revient. Et lorsqu'il revient, le Père appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est dehors. C'est ça, c'est le frère, pardon, qui était resté, qui appelle. Un de ses serviteurs lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Écoutez bien. La clé. Il se mit en colère. Et ne voulut pas entrer. Il s'est mis un mur. Il ne voulut pas entrer. Ah. Son père sortit et le pria d'entrer. J'ai dit ceci, le Père Céleste sort et te prie d'entrer. C'est pas toi qui le supplie, c'est lui qui a supplié, c'est lui qui a envoyé Jésus. Le Père, et je lisais ça, je dis, waouh Seigneur, tu sors, tu viens me chercher, tu me supplies d'entrer. Le mur est renversé et le Père sort récupéré. Pas celui qui était parti à cause du péché, celui qui était dans la maison. Et combien de chrétiens sont dans la maison et se mettent des murs parce que c'est pour les autres. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans savoir jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Parfois, on regarde même les pécheurs repentants avec jalousie. Parfois, je vais toucher un sujet. Parfois, on regarde des ministères restaurés avec jalousie. Mais lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et c'est pour lui que tu fais la fête? Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le mur est renversé. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. J'ai toujours été là. La porte est ouverte. La porte ouverte peut faire entrer quelqu'un qui croyait que c'était fermé. Mais la porte ouverte peut littéralement faire sortir quelqu'un qui dit, ben, Seigneur, libère-moi, délivre-moi. Mais la porte est ouverte. Un autre passage, excuse-moi Suzanne, dans Acte 12, alors que Pierre est en prison, voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange furiel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils n'ont pas eu le temps de frapper. La porte, parce qu'il est sorti, il y avait une première porte, la prison qui s'ouvre. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, on arrête de croire à la téléportation. Nous, on veut que Dieu nous téléporte d'une prison à la liberté. Mais Dieu, ce qu'il fait, il ouvre une porte. Mais il faut se lever, oser franchir la porte. Ne te mets pas un mur. Et la porte est ouverte, tu mets un mur pour fermer la porte. La culpabilité, ou bien pas envie, ou bien tellement de choses, tellement de raisons. Je ne suis pas capable. Mais quand tu franchis la première porte, tu arrives à une porte peut-être de fer. Mais la porte de fer s'ouvrira d'elle-même dans le nom de Jésus. La porte de fer s'ouvrira d'elle-même dans le nom de Jésus. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et je prie et je prophétise un peuple qui est devant de portes de fer. Et Dieu dit ceci, que la porte de fer va s'ouvrir d'elle-même. Conformément à ce que déclare la parole, et je l'ai posté cette semaine, j'ai mis devant toi, pas une porte fermée, mais une porte ouverte. Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as serré ma parole, parce que tu as été persévérant, persévérante, la porte qui est devant toi, qu'elle soit en fer, qu'elle soit en bois, qu'elle soit, peu importe la matière, ce qui est important, c'est qu'elle va s'ouvrir d'elle-même. Parce que tout simplement, Dieu ne met pas une porte fermée. Dieu met devant toi une porte ouverte. Ne la ferme pas avec tes yeux, ne la ferme pas avec tes raisonnements. Mais marche avec assurance. Le mur a été renversé. Et la Bible nous dit, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix. Pourquoi? Parce que Christ a tout payé. En fait, je ne sais pas si on peut capter ça ce matin, cet après-midi. La véritable paix n'est pas émotionnelle. La véritable paix, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ, tu as la paix. Et quand parfois tu écris des phrases, tu dis, oh, mais c'est bon ça. Et je me disais, mais en fait, mais qu'est-ce qui peut m'arriver tant que j'ai Jésus? La paix n'est pas liée à mes circonstances. La paix n'est pas liée à ce qu'on m'a enlevé. La paix n'est pas liée à ce que j'ai perdu. La paix est liée au fait, est-ce que j'ai Jésus? Si tu as Jésus, la paix n'est pas émotionnelle. La paix est une personne. La paix, c'est Jésus-Christ. Et dans ce texte-là, je crois, il y a au moins 4 fois, on est parlé de paix, de paix, de paix. Refuse la culpabilité. Si tu as Jésus, tu as la paix. Si tu acceptes Jésus, tu accèdes à la vraie paix. En fait, nous, on parle d'une paix émotionnelle, d'une paix liée à tellement de circonstances. On peut être troublé et profondément en paix. Que ce soir, tu puisses dire, Seigneur, je veux ce Jésus. Ou bien tout simplement, je veux manifester Christ en moi. Le mur a été renversé, nous sommes en paix. En fait, on peut rétablir par la culpabilité le mur qui a été renversé une fois pour toutes. Mais que cette vérité ce soir puisse littéralement t'affranchir et te dire, mais oui, en fait, je suis en paix. Si tu as péché, que tu as demandé pardon, tu es en paix. Et si tu es loin de Dieu, ne crois pas que c'est compliqué, c'est la repentance. Et si tu es repenti, ne te regarde plus comme un non-repenti. Regarde-toi comme étant approché de Dieu. Deuxième point, nous avons obtenu un accès. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons, la Bible dit, en fait, quand tu lis ce passage, nous avons été introduits par Jésus. Nous avons été introduits par Jésus. Et le terme grec se trouve 3 fois. Ça nous parle toujours, en fait, de l'accès du croyant auprès du Père. Nous avons accès. Nous avons été introduits. Et ce terme était utilisé pour désigner un officier du roi qui introduisait quelqu'un près du roi. C'est Jésus qui t'a introduit. Parfois, on cherche tellement des connexions qui vont nous introduire
au-delà. Et je crois qu'il y a cette dimension prophétique des connexions, des relations, des associations. Mais parfois, on croit que s'il n'y a pas un homme, on ne peut pas être introduit. En fait, la vérité basique, il y a des dimensions qui nous est où on a accès et qui sont accessibles par des hommes qui vont nous ouvrir des portes. Mais le problème est le suivant, c'est qu'on veut ces dimensions sans le fondement que nous sommes déjà introduits par Christ dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous devons vivre déjà, et ça c'est à donner à tout le monde. Et on cherche tellement à vivre des révélations fortes, alors que Christ nous a introduits. Nous avons accès. Parfois, on cherche plus la révélation que le Père. Je ne sais pas si vous captez ça. Parfois, on cherche plus à avoir accès à une dimension de profondeur dans la révélation quelconque, dans les dons, dans les talents. Mais j'ai envie de te demander, où en es-tu avec cette dimension du fondement, de la base, mais qui est tellement profonde? Si nous tous ici, on vivait dans cette dimension que j'ai accès auprès du Père, et j'ai été introduit, pas par n'importe qui, j'ai été introduit par Christ.
Amen. Alléluia.
Je ne sais pas quelle est la personne la plus importante pour toi. Imagine que le téléphone sonne, et que c'est cette personne qui est la plus importante pour toi. Mais c'est rien à côté d'un Jésus qui t'a dit, mais moi, je t'ai pris, je te prends, je t'emmène devant le trône du Père. C'est tellement simple. Et j'ai dit, et je me suis dit, Seigneur, waouh, je peux vivre une communion, une intimité, quelque chose de fort. Et on est tellement en train d'attendre à des hommes ou à ce que même l'Église remplace ces choses, qu'on ne vit pas ce que nous avons déjà. Moi, je ne sais pas si tu es au courant, mais le changement de salle, si ça t'éloigne de Dieu, c'est un grave problème. Bien sûr, on essaie de faire tout pour avoir le meilleur horaire, le meilleur créneau. D'ailleurs, c'est le dernier jour, tu me diras merci pour les annonces, dernier jour pour le sondage. On essaie de trouver des meilleures solutions. Mais rien, rien, je dis bien rien, même une déception sentimentale, rien, ne nous ferme la porte au Père Céleste, car c'est Christ qui nous a introduits. La question qu'on doit se poser, est-ce que Christ est toujours vivant? Est-ce que le sacrifice de Jésus parle toujours? Est-ce que ce sacrifice-là est toujours réel? Christ a introduit. Nous avons accès à tout ce que Jésus a accès. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche en fait. Nos célébrations devaient être des célébrations de feu. Parce qu'on a accès à tout ce que Jésus a accès. Arrête d'être frustré de ce que tu n'as pas. Commence à manifester ce que Christ t'a déjà donné. Église, commence à manifester ce que Christ t'a déjà donné. Commence à manifester ce qui est à ta portée. Et nous, comme nous avons été introduits par Jésus, la Bible dit, nous sommes de la maison de Dieu. Vous êtes concitoyens des saints. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, gens de la maison de Dieu. Nous avons une famille. Jésus t'a introduit. Nous avons été introduits. Nous sommes de la maison de Dieu. Jésus t'a introduit pour être dans une famille. Il n'y a pas de rejet. Peu importe ce que tu as fait. Tu es fils, fille. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Même nos expériences douloureuses, même nos déceptions ne nous privent pas de ce droit, de ce privilège d'être de la maison de Dieu. J'ai dit qu'on est de la maison de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous excite, si c'est un barbecue durant l'été, le truc, cette nouvelle, on a besoin que les yeux de notre cœur s'illuminent. On dit, Seigneur, mais je fais partie de ta famille, quoi.
Amen, alléluia,
Jésus. Je suis le frère de Jésus. Je ne sais pas s'il était noir. Mais je suis le frère de Jésus. Et vous savez, en fait, tout à l'heure j'ai dit, ne te regarde pas comme étant sans Jésus, alors que tu es avec Jésus. Le problème, c'est qu'on regarde les autres comme on se regarde. La personne qui est à côté de toi, si elle a donné sa vie à Jésus, avec ses faiblesses, ses défauts, fait partie de la maison de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. On est une famille. On est une famille. Je suis dans cette famille et je brise tout esprit de rejet. Je condamne tout esprit qui te dit que tu es exclu, que tu ne fais pas partie de la famille, ou qu'on ne t'aime pas, ou tu ne comptes pas. Tout ça, c'est des mensonges, premièrement. Et deuxièmement, l'ennemi sème ça dans nos cœurs pour qu'on puisse regarder, se regarder les uns les autres, être comme, je disais à des personnes, être des snipers dans la vie des autres. Tu vois un péché, bam, tu as péché, frère. Mais est-ce qu'on peut se célébrer et se dire, waouh, tu es le frère de Jésus. Je suis content que tu sois le frère de Jésus, parce que moi aussi je suis le frère de Jésus. On est ensemble. On a accès à ce que Jésus a accès. La puissance, la gloire, l'autorité. On a accès. Et je termine avec mon troisième point. Nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Nous avons été édifiés. On pourrait dire tellement de choses, et je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas la pierre angulaire de ta vie. En fait, tu avais l'impression que qu'il y avait une personne dans ta vie, une situation, tu avais l'impression, tu avais tout construit, que c'était la pierre angulaire. Ben, je suis désolé de te décevoir, c'est Jésus. Mais quand on prend conscience que c'est Jésus, tout change. Ni le diable, ni ton péché ne peut te détruire complètement. Jésus-Christ n'est pas une pierre angulaire fragile. Tu as été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'Église a été édifiée. Et c'est pour ça que l'Église, parfois on dit, c'est quoi l'Église? L'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'Église a été édifiée pour être un lieu aussi de rassemblement de ceux qui sont appelés, de ceux qui étaient jadis éloignés et qui doivent se rassembler dans une famille, dans une église aussi locale. Vous savez pourquoi on a une mauvaise compréhension de la famille spirituelle? Parce qu'on a une mauvaise compréhension de la famille locale de l'Église. Et beaucoup, en ce moment, sont confus parce que on est confus dans la compréhension de ce qu'est l'Église locale. Et donc, on ne peut pas avoir une idée claire de ce qu'est une famille spirituelle. On dit souvent à ceux qui disent « Ouais, mais je suis sans Église, il n'y a que Dieu et moi. » Moi, je dis, mais en fait, Dieu ne peut pas te décevoir. Dieu ne peut pas, comment je peux dire, travailler ton caractère. Il n'y a que dans l'église locale où tu es aiguisé, où tu apprends le pardon, où tu apprends la réconciliation, où tu apprends l'humilité, où tu apprends réellement à manifester le caractère de Christ. Va manifester le caractère de Christ à Christ. Mais la famille spirituelle a une représentation sur terre, c'est la famille locale. Et nous avons édifié sur le fondement des apôtres et les prophètes. Et tout le Nouveau Testament nous parle, nous montre que les apôtres ont bâti des églises. Les apôtres n'ont pas bâti une communauté d'amis. Les apôtres ont bâti des églises locales. Et nous avons été édifiés. Et dans une église locale, il y a des ministères. La Bible nous dit qu'ils sont là pour travailler au perfectionnement des saints. Va voir tes potes d'amis, tu dis qu'on est une église, et dis-toi où sont les ministères. reconnus, qui ont été, qui t'édifient au sens biblique. Donc, faut faire attention à, avec tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons été édifiés sur le fondement des ministères que Dieu établit. Et parce que tu crois en ça, la Bible nous enseigne clairement dans ce passage que nous sommes aussi élevés. En fait, la culpabilité est loin de l'église locale, des autres. C'est par les autres que Dieu te relève et t'élève. C'est par les autres que Dieu te relève et t'élève. Et c'est par les autres que, c'est par les autres que l'Église est relevée et élevée. Peu importe parfois des saisons compliquées, peu importe des saisons difficiles, mais que ce après-midi, que mes écailles tombent et que je puisse célébrer la beauté de l'Église, que je puisse célébrer la famille que Dieu m'a donnée, que je puisse, en célébrant cela, je célèbre la famille spirituelle. Parce que Dieu représente toujours les réalités spirituelles par des réalités visibles. C'est toujours comme ça. Il veut nous aider à comprendre. Donc, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et nous sommes élevés. Pourquoi? Parce que ce que Dieu construit, il veut le faire croître. Et je déclare aujourd'hui que Dieu veut te faire croître. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu as fait, Dieu veut te faire croître. Dieu veut te construire. Dieu veut t'élever. Et Dieu va faire tout. Dieu va engager toute une armée pour t'élever. Et j'aimerais, j'ai terminé le message, mais j'aimerais faire le lien. Alors qu'on parle des fondements des ministères et des apôtres, et avec l'équipe dirigeante, on a été unanime, pasteur Joël, Mathieu et moi-même. Et j'aimerais appeler Estelle et Gérard, s'il vous plaît. L'Église est bâtie par des ministères. 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 Et j'aimerais vraiment, alors aujourd'hui, que ça soit bien clair, je disais qu'on a été unanime. Les pasteurs Joël, Mathieu, moi-même. Le reste de l'équipe a été aussi associé dans la prière et est associé dans la prière. Et en fait, j'aimerais vous expliquer brièvement. Mettez-vous que tout le monde vous regarde, vous observe, vous admire, vous bénisse. Mettez-vous là. Ils ont aspiré ce qu'on appelle à la charge du ministère. Et on a pensé bon qu'en septembre, de les établir. Ils ont aspiré à être des ministères et en septembre, on va les établir. Donc, je disais que nous, dans l'équipe dirigeante, on est unanime. L'équipe, le reste de l'équipe a été associé et pris pour ça. Et aujourd'hui, on veut réellement vous associer dans la prière. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, 1 Timothée 3:7, il faut aussi, en parlant de ceux qui aspirent, mais qui vont être établis plus tard, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Vous comprenez bien que si il nous est dit un bon témoignage de ceux du dehors, quand on regarde les autres critères, il est tout à fait normal d'attendre d'eux qu'ils aient un bon témoignage à l'intérieur de la maison locale. Et le bon témoignage signifie aussi un bon rapport. Or, ni Mathieu, ni moi-même, ni Joël, ni qui que ce soit, ne peut faire un rapport exact sans vous. Et donc, c'est biblique que l'Église fasse aussi un rapport du témoignage de ce couple, qu'on souhaite établir comme des ministères. Et le docteur Joël nous aura la joie de nous expliquer c'est quoi de ministère. Ce n'est pas ma prétention cet après-midi. Mais le ministère part deux anciens au ministère de la parole. Mais on veut les établir en tant que ministère local, avec bien sûr cette prévision, par la grâce de Dieu, si Dieu confirme, d'être en responsabilité sur le secteur Brignoles. Mais aujourd'hui, en tout cas ce qu'il y a sur notre cœur, c'est d'abord dans la maison locale qu'ils soient établis en tant que ministère. Alors si vous voulez, et vous m'avez bien suivi, être édifié, et être élevé, nous avons tous intérêt à prier sérieusement pour que la reconnaissance et l'établissement se fassent de manière biblique et avec sérieux. C'est pourquoi on vous associe, pas dans le sens de faire un vote, Mais on vous associe de manière spirituelle pour qu'en septembre, quand on dira tel samedi ou tel dimanche, on va les établir. Nous, on aura fait un rapport, on dira, il a paru bon au Saint-Esprit, à l'équipe et à l'ensemble de l'Église de reconnaître. Donc, le ministère qu'on reconnaît de manière individuelle, Gérard, mais dans le couple, ils vont fonctionner ensemble, de reconnaître Gérard en tant que ministère dans la maison. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on vous donne l'été. Donc, si vous avez connaissance d'un fait, j'ai dit d'un fait, pas d'une vision céleste et nocturne après avoir bu, deux ou trois pastis. Si vous avez connaissance d'un fait qui remettrait en cause la reconnaissance, venez nous voir, on va prier, on va vous écouter avec sérieux. Parce qu'on croit réellement que ce qu'on va faire en septembre, c'est un acte très sérieux pour la bénédiction de l'Église. Mais déjà, au vu de leur parcours, est-ce qu'on peut les honorer, les acclamer? Voilà, je vais juste demander donc à l'équipe, la musique, de s'approcher. Et je rappelle rapidement, alors qu'on parlait d'être édifié, élevé, j'aimerais juste mettre l'emphase. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et merci Seigneur pour des ministères qui s'élèvent. Mais le diable a voulu t'abaisser par la culpabilité. Le diable a voulu t'abaisser par des mensonges. Le diable a voulu t'abaisser, t'arrêter. Et te regarder comme quelqu'un qui ne vaut rien. Mais en terminant ces moments, on veut juste s'approcher encore. Dis Seigneur, je reconnais que tu es mon Père.